dois me rendre à l'évidence, je suis quand même sensiblement plus petit que toi, Christian. J'ai été complexé dans mon adolescence pour ma taille, et aujourd'hui c'est quelque chose que j'ai accepté, donc ça va, j'ai pas plus de soucis avec ça. Ah voilà. Par rapport aux autres. Bonjour à tous, merci beaucoup Christian pour cette introduction. C'était très utile de voir comment Dieu déroule son plan au travers de l'histoire. On voit que Dieu est un Dieu d'alliance, il veut faire une alliance avec l'humanité, et il promet que quelqu'un dans l'humanité va apporter la solution au problème du péché. Plus tard, comme Christian tu l'as bien montré, hein, il affine ça, il va dire que quelqu'un dans la descendance d'Abraham, dans le groupe de peuples que va composer la descendance d'Abraham, quelqu'un là-dedans va apporter la solution au problème du péché. Plus tard encore, Dieu promet que quelqu'un dans la descendance de Judas, donc une tribu, quelqu'un dans cette tribu va apporter la solution au problème du péché. Et plus tard, Dieu met en place cette lignée royale, la famille de David. Et Dieu promet que quelque part, dans cette lignée royale, il apportera la solution au problème du péché. Demain, c'est Noël, n'est-ce pas? Oui? C'est vrai, hein? Vous entendez bien? Ça va? Demain, c'est Noël. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis 4 dimanches, on étudie, pour se préparer à ce jour de Noël, pour se préparer à demain, on étudie des prophéties dans l'Ancien Testament, des textes qui annoncent la venue du Messie, qui annonce la naissance de Jésus-Christ. Alors ce matin, ce texte que Christian a lu tout à l'heure, ce n'est pas vraiment une prophétie classique de Noël. Ce n'est pas une prophétie qui nous parle de la naissance vraiment de Jésus, mais c'est un texte qui nous parle de la mise en place de cette lignée royale, une lignée stable, une lignée sans fin, une lignée hors norme, absolument spéciale. Quelques mots de contexte. Si on organisait un grand concours parmi les rois d'Israël, un concours basé sur l'état du cœur et puis le rayonnement de tous les rois d'Israël, assurément, David remporterait la première place. David, c'est vraiment, comme tu l'as dit, hein, le grand roi d'Israël. On pourrait dire que c'est vraiment le grand bâtisseur de la nation d'Israël. Bien sûr, il y a d'autres hommes qui ont œuvré, mais il est vraiment le grand maître, le grand architecte. Dieu s'est servi de David, du roi David, tout particulièrement pour bâtir la nation d'Israël. Ça s'est passé 1000 ans avant Jésus-Christ, 3000 ans dans le passé par rapport à nous. David a été choisi par Dieu pour devenir le deuxième roi d'Israël. David a vécu un démarrage extrêmement difficile. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, mais le premier roi qui avait été un petit peu choisi par le peuple, Saül, lui a mené la vie dure. Ce premier roi n'a pas accepté que David arrive sur le devant de la scène. Et puis finalement, David est intronisé. Il devient roi de tout le territoire d'Israël. Une des premières choses que David va faire quand il devient roi, c'est qu'il va faire venir l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Donc c'était un coffre qui, d'une certaine manière, symbolisait ou manifestait la présence de Dieu parmi son peuple et l'alliance que Dieu avait fait avec son peuple. Il fait venir l'arche de l'Éternel à Jérusalem, qui était la ville que David s'était choisie comme un peu capitale de son royaume, et puis la ville où lui-même vivait. Et puis, une fois que l'arche est là, il se dit, mais il faut que je construise un bâtiment. Il faut que je fasse un temple pour cette arche. L'arche est depuis 500 ans dans une tente. Maintenant, c'est le moment de construire un bâtiment en dur. Il va en parler au prophète Nathan. Nathan, il va lui dire, vas-y, fais-le, c'est super. Seulement, la nuit suivante, Dieu parle à Nathan. Il lui dit, écoute, c'est pas David qui va me construire un bâtiment. J'ai vécu pendant 500 ans dans une tente. j'ai pas eu besoin de vous pour me construire un bâtiment. » Il les remet un peu à leur place. Et puis ensuite, il s'adresse spécifiquement à David. Il lui dit, « Écoute, David, moi je t'ai pris au troupeau. C'est moi qui t'ai mis à la place où tu es maintenant. J'ai pas besoin de toi pour me construire une maison. » Et puis je vais relire le texte que tu as lu tout à l'heure, Christian. Est-ce que on peut afficher le texte En fait, la suivante, encore la suivante. Pardon, j'avais modifié ça et manifestement ça a pas bien fonctionné. Mais voilà, le texte que je vous lis. De plus, donc l'Éternel est en train d'annoncer des choses à David. Et puis on a ce de plus qui montre une nouvelle chose. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres. Je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je vais juste prier maintenant. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier pour cette prophétie qui a été donnée 1000 ans avant la venue du Sauveur. Et on veut te demander maintenant d'éclairer nos cœurs par ton Saint-Esprit pour qu'on puisse comprendre cette parole et qu'elle puisse jaillir dans nos vies. Amen. De qui parle l'Éternel dans ce texte? Ça, c'est la grosse question qu'on doit se poser. De qui parle-t-il? Et j'ai essayé de scruter un petit peu cette prophétie et j'ai recensé 6 caractéristiques. Vous pouvez, en même temps que je vais énoncer les 6 caractéristiques, vous pouvez regarder le texte et essayer de les trouver dans le texte pour vous-même. 6 caractéristiques de ce grand roi qui arrive. Premièrement, il est descendant de David. Deuxièmement, son règne est stable et sans fin. Troisièmement, il construit une maison à l'Éternel. Quatrièmement, il vit une relation père-fils avec Dieu. Cinquièmement, il est puni pour le mal qu'il commet. Et puis sixièmement, la grâce est sur lui et la grâce ne l'abandonne jamais. À partir de ça, on peut faire une petite étude historique, hein, voir si on arrive à trouver quelqu'un, un candidat valide pour cela. Alors, c'est vrai, vous savez, les prophéties, parfois Dieu donne une prophétie à un moment donné, et elle semble se réaliser au travers d'un homme, mais on se rend compte qu'elle ne se réalise pas tout à fait. Et puis elle va sembler se réaliser un peu plus tard, mais on se rend compte qu'elle se réalise pas tout à fait. Donc on ne peut pas dire que aucun élément de la prophétie s'est réalisé avant l'arrivée du Sauveur. Il y a bien sûr des éléments qui vont se réaliser au fur et à mesure, mais on va se rendre compte que Christ seul satisfait toutes les caractéristiques de cette prophétie. Le fils qui va succéder à David, c'est un homme qui s'appelle Salomon. Évidemment, c'est un bon candidat, on pourrait se dire, voilà, c'est lui le descendant de David. En plus, c'est lui qui a bâti le temple, effectivement. Un homme sage, un homme puissant. Mais dans la deuxième partie de sa vie, un homme qui va se détourner clairement de l'Éternel et un homme qui va faire la chose qui est la pire qu'on puisse imaginer. Il va commencer à adorer d'autres dieux. Suite au règne de Salomon, le royaume, même le royaume d'Israël, va être divisé en deux. Ensuite, je vous fais la liste des rois d'Israël, rapidement. On a Roboam, le fils de Salomon. Sous le règne de Roboam, le trésor du temple va être pillé. On a Abijam, un mauvais roi. On a Asa, le descendant d'Abijam. Lui, il n'est pas trop mal, mais il va de nouveau piller les restes du trésor du temple. Enfin, il va lui-même offrir les restes du trésor du temple au roi de Syrie pour acheter la paix. Josaphat, un bon roi, mais lui n'arrive pas à retirer l'idolâtrie d'Israël. Joram, clairement un mauvais roi. Akazia, un mauvais roi. Joas, si vous voulez lire l'histoire de Joas dans l'Ancien Testament, c'est toute une histoire. Hein. C'était un bon roi. C'est un roi qui a commencé des réparations d'envergure dans le temple. C'est un homme qui a pu reconstituer le trésor du temple. Mais c'est un homme qui, par la suite, va devoir de nouveau acheter la paix au roi de Syrie en vidant et en donnant tout le trésor du temple. Amatsia, un bon roi, mais lui va mettre au défi le roi d'Israël de l'attaquer. Et en fait, le roi d'Israël va le faire et il va entrer à Jérusalem, il va de nouveau piller le trésor du temple. Azaria, un bon roi, mais de nouveau l'idolâtrie reste dans le pays. Jotham, un bon roi, mais encore une fois l'idolâtrie reste dans le pays. Il améliore encore un petit peu le temple en y apportant des travaux. Akaz, un mauvais roi. Ézéchias, lui, il est appelé le meilleur de tous les rois. Mais lui aussi, il va devoir vider le trésor du temple pour acheter la paix, cette fois-ci, aux Assyriens. Manassé, un mauvais roi. Amon, un mauvais roi. Josias, un peu l'exception, hein, un bon roi, enfin. Lui, il entame aussi une grande période de réparation du temple. Ils vont même retrouver le livre de la loi dans le temple à son époque. Il va y avoir un grand réveil à ce moment-là. Joachaz, mauvais roi. Joachim, mauvais roi. Joachin, mauvais roi. Sédécias, mauvais roi. Et peu à peu, Israël s'enfonce. Il y a 500 ans qui se sont écoulés depuis la promesse faite à David. 20 rois qui se sont succédés. Et ça peut paraître un peu rébarbatif de répéter tout ça, mais ce qui me marque, j'ai lu cette semaine toute l'histoire de ces rois, et ce qui m'a marqué, c'est combien de fois il est question du temple. On sait peu de choses de ces rois. On ne sait pas grand chose de leur politique intérieure, on ne sait pas grand chose de leur politique extérieure, des alliances qu'ils ont pu conclure, des choses comme ça, mais on sait ce qui se passait dans le temple. Souvent, les bons rois ont entrepris des travaux, des réparations dans le temple. Et combien de fois le temple a été pillé tout au long des années. Aucun roi correspond à la prophétie. Aucun roi correspond totalement à la prophétie. Mais pourtant, Dieu maintient sa promesse. Il maintient une lignée. Et puis, c'est à ce moment-là qu'intervient une grande invasion, l'invasion des Babyloniens, qui, eux, vont carrément détruire le temple. Pas juste piller, mais détruire le temple. La royauté va même se perdre, on pourrait dire. La trace de la prophétie s'éteint. Et on a l'impression que la prophétie s'arrête, qu'elle ne va pas s'accomplir. Mais, après plusieurs décennies passées en exil, le roi de Perse, qui a succédé au roi de Babylone, ordonne la reconstruction du temple. Et en fait, il réaffecte le trésor du temple. Et un des descendants de Josias, nommé Zorobabel, un des membres de cette lignée royale, cette lignée de David, devient le chef, le grand commandant de cette reconstruction. On dirait que voilà, finalement, peut-être que la prophétie va s'accomplir. Sauf que la nation d'Israël ne deviendra plus jamais ce qu'elle a été à l'époque de David. Elle va vivre sous tutelle tout au long de la suite de son histoire. D'abord la tutelle syrienne, d'abord la tutelle grecque à l'époque d'Alexandre le Grand, et puis égyptienne à l'époque des Séleucides, et puis syrienne, et puis finalement la tutelle romaine. Il y a 10 générations qui s'écoulent après Zorobabel, quand tout à coup un nouveau descendant de David arrive sur le devant de la scène. Sur ces 10 générations, il n'y en a pas un qui a vraiment exercé la fonction royale. Et puis tout à coup, Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, fils de Joseph, descendant de David, arrive sur le devant de la scène. Donc jusque-là, aucun descendant ne correspond à la prophétie. Puis tout à coup, on a Jésus qui est arrivé. On va voir, est-ce qu'il colle? Est-ce qu'il correspond avec la prophétie? Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Pardon, vas-y. Voilà, très bien. Donc, tu peux passer les 6 en fait, et puis comme ça je vais... Là c'est les 6 caractéristiques qu'on avait vues dans la prophétie. Il est descendant de David. Il n'y a aucun doute à ce sujet. On a de nombreuses généalogies, on a de nombreux textes historiques qui nous montrent que Jésus-Christ est bel et bien descendant de David. En plus, vous savez que Jésus est né dans la ville de Bethléem. Pourquoi il est né dans la ville de Bethléem? Parce que la ville de Bethléem était la ville de David. Et lors du recensement, tous les habitants d'Israël devaient se rendre dans leur ville d'origine pour être recensés. Deuxième point, son règne est stable et sans fin. Le règne de Jésus-Christ, c'est un des grands thèmes de l'enseignement de Jésus. Jésus a parlé du royaume probablement plus que de... Enfin, c'est un des thèmes phares de son enseignement. Hein. Il nous dit, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Il nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les paraboles du royaume, où Jésus enseigne, il décrit son royaume. Il y a la promesse que Jésus a faite à Pierre, hein. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et puis il y a l'image, enfin, ce moment où Christ royal entre dans Jérusalem. Vous savez, peu de temps avant la crucifixion, ce moment où il est célébré par tout le peuple de Jérusalem. Et puis, au-delà de tout ça, enfin, suite à tout cela, il y a des millions, peut-être même des milliards d'hommes et de femmes depuis 2000 ans qui ont reconnu en Jésus-Christ le roi, qui ont considéré Jésus-Christ comme le roi. On peut croire en Jésus ou ne pas croire en lui, mais on est obligé d'admettre que Jésus est le plus grand roi. Aucun roi dans l'histoire, aussi puissant eût-il été, a exercé une influence telle. Aucun roi a eu un règne aussi stable et aussi durable que Jésus-Christ. Donc Jésus, clairement, satisfait cette deuxième caractéristique. Troisième point, il construit une maison à l'Éternel. Jésus l'avait annoncé, hein. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et Jésus, les disciples vont faire le parallèle un peu plus tard. Jésus est ressuscité. 3 jours après sa mort, il est ressuscité. Jésus n'a pas construit un temple physique comme Salomon l'a fait, ou comme ça a été, il y a eu reconstruction par la suite, mais Jésus a construit un temple spirituel. Si on comprend que le temple, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu, alors ça devient évident, Jésus a effectivement bâti le temple parfait. Il a ouvert la voie. Il a déchiré le voile. Par sa mort, Jésus a permis que ce lieu de rencontre avec Dieu, que ce lieu devienne possible, qu'il existe. Il permet que nous rentrions en relation avec Dieu. Jésus a construit la maison de l'Éternel. Quatrième chose, il vit une relation père-fils avec Dieu. Alors là, on pourrait s'étendre, on pourrait faire un message juste sur cette question-là, mais c'est tellement clair. Jésus démontre tout au long de son ministère qu'il est Dieu, qu'il est le Fils de Dieu. Il le démontre par la connaissance totale qu'il a de tout ce qui se passe autour de lui. Il le démontre par les miracles qu'il était capable d'accomplir. Il le démontre par cette relation incroyablement intense qu'il entretenait avec son Père, avec Dieu son Père. Jésus-Christ est Dieu, il est le Fils de Dieu. Et donc, lui plus que tout autre, satisfait à cela, il vit une relation père-fils avec Dieu. Cinquième point, il est puni pour le mal qu'il commet. Alors là, on pourrait se dire, ça c'est peut-être le point faible par rapport à Jésus. Jésus n'a jamais péché, il est Dieu, il est saint, il est parfait, il n'a jamais péché, même au moment où Satan lui-même vient le tenter. Même à ce moment-là, Jésus ne pêche pas. Il tient ferme, il ne désobéit pas à Dieu, il ne cède jamais, ni par ses actions, ni par ses paroles, ni même par ses pensées. Alors, comment Dieu pourrait-il le punir? Comment est-ce qu'on peut justifier la mort de Jésus-Christ sur cette croix. Comment c'est possible qu'il ait vécu ces 3 heures de ténèbres sur la croix, ces 3 heures pendant lesquelles il a subi la colère de Dieu? Comment est-ce qu'on peut justifier, comment est-ce qu'on peut comprendre l'humiliation, les souffrances, ces 3 jours passés dans la mort? Jésus n'a jamais péché, mais il a pris sur lui nos péchés. Il a subi la correction, il a subi la punition que nous méritions à notre place. Dieu le Père a puni son Fils à notre place pour que nous puissions recevoir le pardon. Donc Jésus accomplit parfaitement ce 5e point de la prophétie. Finalement, le dernier point, c'est que malgré la punition, la grâce ne s'éloigne pas de lui. En prenant nos péchés, c'est exactement ce qui s'est passé, hein. Jésus est devenu, il est devenu lui-même la grâce pour tous ceux qui lui appartiennent. Il est devenu la source de la grâce, l'élément par lequel la grâce est devenue possible. Il n'a pas accordé le pardon contre quelque chose de notre part. Il l'a accordé par grâce, par pure grâce, de manière imméritée. C'est juste un cadeau. Et encore une fois, Jésus correspond parfaitement à cette prophétie. J'espère que vous êtes convaincus. Jésus est celui qui colle avec la prophétie. Parmi l'ensemble des descendants de David, Jésus est le seul et l'unique qui colle avec cette prophétie que Dieu avait accordée à David 1000 ans auparavant. Alors vous allez me dire, bon, ça peut paraître un peu évident, on est des chrétiens, c'est normal que ce soit Jésus qui satisfasse à toutes les prophéties. On n'a peut-être pas besoin de passer 20 minutes à démontrer tout ça. Et pourtant, je crois que c'est hyper fondamental. Si Jésus est vraiment le roi de cette prophétie, ça veut dire qu'il l'accomplit totalement. Et s'il accomplit totalement cette prophétie faite à David, ça change beaucoup de choses pour nous. Et on va voir un petit peu comment ça change notre vie, nos vies au quotidien. Je repasse par ces 6 caractéristiques et je vais essayer d'expliquer comment ça change nos vies au quotidien. Premièrement, il est descendant de David. On pourrait dire, bon, c'est assez factuel, mais moi je trouve que cette première caractéristique, c'est vraiment une ancre pour notre foi. Si vous êtes chrétien, si vous êtes comme moi, vous avez probablement, peut-être, parfois des périodes de doute. Vous dites, mais est-ce que je ne fais pas fausse route en plaçant ma foi dans le Dieu de la Bible? Mais Dieu, qui connaît nos cœurs parfaitement, qui sait qu'on va être parfois dans cette situation de doute, il place des ancres pour tenir ferme dans ces moments de doute. Et une de ces ancres qu'il a placées, c'est qu'il a fait venir le Messie dans une lignée royale qu'il a mise en place 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et il a permis que la venue de Christ, en fait, s'inscrive dans l'histoire. Il nous a donné le nom des rois, il nous a donné les actes de ces rois. Il a fait en sorte que l'histoire puisse confirmer l'existence d'une bonne partie de ces rois. Bref, il a voulu que son Messie soit accroché fermement à la réalité. Dieu n'a pas juste balancé une info à un prophète lors d'un rêve obscur quelque part qui serait juste invérifiable. Pas du tout. Il a voulu que les faits soient vraiment bien établis. Il a voulu tracer pour nous une évidence historique. Et notre foi est rassurée par ce premier point. Deuxième point, son règne est stable et sans fin. Moi, je trouve que cette deuxième caractéristique, c'est ce qui nous permet d'avoir la paix. Si nous faisons partie du royaume de Dieu, alors absolument tout peut s'effondrer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans nos vies, tout est un peu volatile. Certains investissent dans le capital, d'autres investissent dans leur santé. Ils vont faire très attention à ce qu'ils mangent, à l'exercice physique qu'ils peuvent faire, parce que c'est l'investissement le plus important pour eux. Il y en a d'autres qui vont peut-être investir dans leur vie de famille. Toutes ces choses, elles sont bonnes, mais toutes ces choses-là, elles peuvent s'effondrer. Le royaume que Jésus inaugure, lui seul, est stable et sans fin. Quand on fait partie de ce royaume-là, on n'a plus besoin de s'inquiéter de la faillite, plus besoin de s'inquiéter pour sa santé, plus besoin d'avoir des craintes pour sa famille. Je ne dis pas qu'il faut prendre ses distances avec toutes ces choses. Bien sûr que la Bible nous demande d'être sages par rapport à toutes ces choses que Dieu nous donne. Mais on n'a plus besoin d'avoir peur. On n'a plus besoin d'avoir peur des crises. On n'a plus besoin d'avoir peur des effondrements dans nos vies. On peut juste avancer confiant dans la paix. Parce que même au travers des circonstances les plus terribles, nous faisons partie de ce royaume stable et sans fin. Troisième chose, il construit une maison à l'Éternel. Je trouve que l'implication de cette réalité-là est juste énorme. Jésus bâtit une maison, un lieu où nous pouvons entrer en relation avec Dieu. Alors il ne s'agit pas d'un lieu géographique, il s'agit de son propre corps. Par sa mort et par sa résurrection, nous sommes, si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, en relation directe avec Dieu. J'ai bien dit, en relation directe avec lui. Pas besoin d'un pasteur pour être en relation avec Dieu. Pas besoin d'un local d'église comme cette salle ce matin pour être en relation avec Dieu. Pas besoin d'un temps de louange de bonne qualité pour être spécialement en relation avec Dieu. Une seule chose est nécessaire. Le corps de Christ, mort et ressuscité pour nous. Alors profitons-en. Vivons là cette relation directe avec Dieu. Passons du temps dans la prière, dans la lecture de la Bible. Et même plus que ça, en fait, dans la vie en général, on doit prendre le temps de réaliser jour après jour qu'on vit cette relation avec Christ. Quand on se lave les dents le matin, quand on est dans le bus pour aller au travail, quand on est au travail toute la journée, quand on regarde peut-être un film le soir, ou quand on lit un roman, ou que sais-je, quand on discute avec nos enfants, ou avec nos conjoints, ou avec nos parents. Quoi que nous fassions, on est en relation directe avec Dieu. C'est juste énorme. C'est une réalité tellement forte. Quatrième point, il vit une relation père-fils avec Dieu. Le fait que Jésus est Dieu, c'est encore un élément qui change tellement de choses. Ça montre le caractère unique du christianisme. Dieu n'a pas 12 fils qu'il envoie à différentes périodes de l'histoire. La Bible nous le dit clairement, hein, Jésus est le Fils unique de Dieu. Et c'est précisément pour cette raison qu'on peut pas croire qu'il y a quelque chose d'autre que Jésus qui peut nous ouvrir ce chemin vers Dieu. Il n'y a rien d'autre. Jésus est le seul et l'unique qui peut nous réconcilier. Rien d'autre ne peut nous apporter la grâce. Rien d'autre ne peut nous permettre d'entrer dans ce temple. Jésus est le seul chemin. Il est le seul Fils de Dieu. Le seul qui correspond à cette prophétie. Du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir des cœurs partagés. Il est l'unique. Il est notre tout. Jésus n'est pas notre priorité numéro une. Il est notre seule priorité. Ça veut dire que quand Jésus est notre seule priorité, on n'a plus de priorité numéro 2. Il est notre seule et unique priorité. Cinquième point, il est puni pour le mal qu'il commet. Jésus est mort pour nos péchés. Et si ce matin vous croyez ça, vous faites partie de son royaume. Si vous ne croyez pas ça ce matin, vous devez réfléchir impérativement à cette question. Parce qu'à cause de nos péchés, notre destinée naturelle, c'est de vivre la colère de Dieu, de subir la colère de Dieu. Et on ne doit pas s'attendre à vivre la colère de Dieu juste pour une heure ou pour quelques jours ou pour quelques milliers d'années. C'est pour l'éternité. À cause de nos péchés, nous sommes séparés de Dieu. Dieu qui est la source de la vie, séparés du Créateur, séparés de celui qui nous aime, par Jésus-Christ, puisqu'il a, il a été puni pour le mal que nous avions commis. Si nous l'acceptons, si nous acceptons ce cadeau qui nous est fait, nous pouvons nous approcher de Dieu. Alors, tournez-vous vers Jésus. Sixième point, la grâce est sur lui. Jésus est la source de la grâce. Il est celui qui nous permet d'obtenir ce cadeau par la grâce. C'est la dernière caractéristique. Je crois que cette caractéristique de la grâce, elle doit avant tout provoquer en nous l'émerveillement. Quand on réalise que tout nous est donné, pas parce qu'on avait fait quelque chose, mais par pure grâce. On doit juste tomber à genoux et être émerveillé. Quel bonheur, quelle paix, quelle grâce, quel soulagement, quelle joie, quel amour que de savoir que Jésus nous sauve par grâce. On doit être émerveillé, on ne doit pas se lasser de ça. On doit être émerveillé encore et toujours, jour après jour. Je conclue. Il y a 6 points ici. Et je ne sais pas si vous savez, mais notre cerveau, il n'arrive pas trop à retenir 6 points lors d'une prédication. Donc, on va essayer de faire quelque chose pour se souvenir de ça. Essayez pas de vous souvenir de ces 6 points parce que vous n'y arriverez pas, j'y arriverai pas non plus. Probablement que la semaine prochaine, si on essaye juste de s'en souvenir comme ça, on s'en souviendra pas. Pourtant, je pense que ça nous ferait du bien de méditer sur ces 6 points pendant cette semaine, pendant ce temps de Noël et enfin ce temps de fête qui est devant nous. Donc, je vais demander à la personne, à Karine, toi qui es responsable de la projection, est-ce que tu pourras, après ce culte, réafficher ce slide ? Tu serais d'accord ? Et puis, j'ai acheté pour nous des post-it, un peu des grands post-it, sur lesquels on a la place de noter tout ça. Et puis, il y a des stylos dans cette boîte-là. Donc, vous pourrez venir, chacun de vous, prendre en note, enfin, si vous le désirez, bien sûr, prendre en note ces 6 points. J'aurais pu vous les imprimer. Mais je sais par expérience que quand on note les choses, on les retient mieux que si on les reçoit simplement imprimées. Et puis ensuite, ce que je vous propose, une fois que vous les aurez notées, c'est de les coller, c'est un post-it, donc ça se colle, hein, dans un lieu que vous voyez tous les jours, même si possible plusieurs fois par jour. Peut-être le miroir de votre salle de bain, peut-être dans votre agenda, peut-être sur la coque de votre smartphone. Peut-être sur le tableau de bord de votre voiture ou sur l'écran de votre ordinateur à la maison ou au bureau. Et puis, 1 ou 2 fois par jour, ou 2 ou 3 fois par jour, j'en sais rien, lisez tranquillement ces 6 caractéristiques de Christ. Méditez-les. Méditons-les pendant cette semaine, voire les 2 semaines qui viennent. Et vraiment, ma prière, c'est que cette méditation soit à la gloire de Dieu. Je vais encore prier. Seigneur, on veut te remercier parce que 1000 ans avant la venue du Sauveur, de notre Seigneur, tu avais annoncé qu'il viendrait. Tu as mis en place cette lignée royale et on se rend compte que Jésus-Christ est le seul qui vraiment correspond à la prophétie que tu avais faite à David. Merci parce que tu l'as enraciné dans l'histoire. Merci parce que son règne est stable et sans fin. Merci parce qu'il a construit cette maison dans laquelle on peut entrer en relation avec toi. Merci parce qu'il vit cette relation père-fils. Il est ton fils, il est Dieu. Et à cause de cela, il est unique, le seul qui ait pu nous ouvrir le chemin vers toi. Merci parce qu'il a été puni, non pas pour le mal qu'il a commis, mais pour le mal que nous commettions. Il a pris sur lui notre péché. Et merci parce qu'il nous accorde tout cela par grâce, non pas par notre mérite, mais par grâce. Je te loue, je t'adore, et je te remercie pour cela. Amen.